À la tombée du jour, les Ouromans se remirent en route. Ils profitèrent du crépuscule pour descendre les dernières pentes des hautes terres et se risquèrent dans les campagnes lorsqu'il fit nuit noire. Le contact répugnant de son manteau entretenait la colère de Vinmer et avait ranimé sa détermination à s'évader. Mais Ulfsen faisait toujours obstacle entre l'ermite monté sur son cheval et le frère sergent, que Donnchad serrait de près. La logorée du barbare, à la longue, devenait presque aussi insupportable que le relent de latrine. Le gaillard parlait tout seul, ses complices ne lui accordant aucune attention. Vinmer finit cependant par en tirer un maigre bénéfice. Il reconnut progressivement quelques mots dans ce marmonnement incoercible, ce qui accoutuma son oreille au parler des barbares. En fait, cette bande pratiquait un dialecte assez proche de celui du clan Kiatuat, que le frère sergent comprenait un peu lorsqu'il servait dans la principauté du Sacre. Quoiqu'il demeurât incapable de suivre l'intégralité des conversations autour de lui, il commençait à en saisir des bribes. Hélas, cela ne l'éclaira guère. Les miettes d'échange qu'il parvenait à percer se limitaient à des grossièretés. Il n'apprit qu'un détail utile. L'homme au torque, manifestement le chef de bande, s'appelait Gruffud. Au plus profond de la nuit, les Ouromans empruntèrent tout simplement les chemins des finages. Ils faisaient parfois des crochets par des sentiers écartés pour rester à distance des villages et des fermes fortes. Aucune hésitation dans cette déambulation nocturne. À l'évidence, les gredins connaissaient fort bien le pays, là où Vinmer, perdu, n'apercevait que haies obscures, chaussées noyées de brume et reliefs noirs des collines. À marcher parmi ces scélérats, il comprenait mieux comment ils pouvaient opérer si profondément dans les terres du Khal. Ces infiltrations en petits groupes à la faveur des ténèbres étaient quasiment indécelables. Malgré l'obscurité, toutes les manœuvres que tenta Vinmer pour se rapprocher de son cheval éveillèrent aussitôt la méfiance de ses ravisseurs. Bien qu'ils fussent prompts à se quereller, les Ouromans se déplaçaient avec une cohésion remarquable, fruit d'une vieille habitude, et ne relâchaient jamais complètement leur vigilance. Au moins l'un d'entre eux restait toujours aux aguets. Quant à l'ermite, accablé de fatigue ou abasourdi par l'infortune, il ne faisait aucun effort pour se rapprocher du frère sergent quand il était en selle. Porté par le ressentiment, le soldat consacré fut tenté de s'emparer par surprise des armes d'Ulfsen Croc-de-Loup ou de Donnchad le Bavard, pour forcer le passage. Cependant, même si le resplendissant lui avait accordé d'abattre un ou deux forbans, il avait la certitude d'y laisser la vie et de risquer celle du frère Hummel. À contre-cœur, il décida de ne risquer pareille rébellion que si s'offrait une occasion particulièrement favorable. De toute façon, miné par la faim et une mauvaise toux, il se traînait assez misérablement bien avant l'aube, au milieu de ses ravisseurs qui paraissaient infatigables et alertes. Dans l'heure grise qui précédait le point du jour, l'homme au torque vint chevaucher tranquillement à côté de lui. Vinmer se raidit un peu. Il fit mine d'ignorer le chef de bande tout en redoutant des coups ou quelques perfidies.
« Je sais ce que tu manigances, » lui dit Gruffud. « Tu es prudent, tu attends ton heure, mais ça ne marchera pas. Tu crois que Donnchad est dérangé à causer tout seul sans arrêt? C'est vrai qu'il est pénible, ce putain de casse-pied, mais il parle à quelqu'un. Son frère Erling a été tué à côté de lui l'an dernier, pendant la guerre contre les OR. Le fantôme lui colle au basque. C'est avec Erling qu'il parle, pour calmer le mort et lui demander de veiller sur nous. Dès que tu tenteras de te barrer, Donnchad sera prévenu. On te rattrapera et je te crèverai les yeux. »
Le frère sergent se garda de répondre. Il se sentait trop las. et à quoi bon nier ses projets d'évasion? Mais dans cette nuit finissante, le murmure ininterrompu du barbare qui le suivait prit une tonalité sinistre. Juste avant le lever du soleil, les Ouromans se réfugièrent dans un breuil particulièrement touffu où ils passèrent la journée. Ils se relayèrent pour dormir et garder leurs prisonniers. Dans ce taillis dense, il était impossible de percer les feuillages du regard, mais les rumeurs d'une campagne paisible parvenaient malgré tout jusqu'aux frères sergents. Ce furent d'abord les chants du coq au point du jour, qui se répondaient de hameau en hameau. De loin en loin, on pouvait aussi entendre des aboiements, des bêlements, ou le meuglement d'une bête de labour. Les roues ferrées d'une carriole rebondissaient sur les pierres d'un chemin. Le choc d'une cognée résonnait dans un vallon voisin. Parfois s'élevait un appel clair ou un rire, parfois l'écho d'une chanson. Une vie simple suivait son cours dans les terroirs de Kimark, pendant que la bande de gredins terrée dans le bosquet comme une meute au fond de son antre attendait le crépuscule. L'errance reprit à la brune. Résigné et muet, le frère Hummel se laissait porter par le cheval. Quoiqu'il sût qu'il traversait le comté, Vinmer se sentait perdu. Ce voyage furtif dans l'obscurité l'empêchait de se repérer. Il supposait que la bande approchait de la claie, qu'elle rejoindrait peut-être dès l'aube. Des tours de guet et quelques petites places fortes défendaient les berges. Mais le frère sergent doutait que les vassaux du comte puissent intercepter une poignée de maraudeurs se faufilant dans les brumes matinales. Le soldat consacré redoutait d'arriver au fleuve sans avoir réussi à se ménager une occasion de fuir. Le franchissement du flot ne serait pas sans danger, et ce qui les attendrait sur l'autre rive risquait d'être pire. Vers la fin de cette deuxième nuit dans le comté, les Ouromans parurent plus nerveux. Les seuls cours d'eau que traversa la bande furent quelques ruisseaux, mais ils n'approchèrent rien qui ressemblât à l'onde puissante d'un fleuve. À 2 ou 3 lieues de distance, en surplomb de la vallée, l'obscurité était percée par un grand foyer et un chapelet clignotant de lumière. Vinmer crut y deviner une tour réale et les postes de garde d'une enceinte. S'agissait-il de Mormark? Cela lui parut peu crédible. La cité comtale occupait un site éloigné de la claie. Ce château était-il Neuvidine? D'abord, le frère sergent écarta cette hypothèse. Depuis ce Nantes, passer aux abords de Neuvidine aurait représenté un long détour vers l'ouest, inutile pour rejoindre le fleuve. Et puis, avec un temps de retard, Vinmer révisa son idée. Ces lumières étaient probablement celles de Neuvidine, car la bande de Gruffud ne cherchait pas à gagner l'Ouromagne, mais le territoire récemment conquis par la horde de Ferbassac, à l'embouchure de la claie. Peu avant l'aube, Gruffud et ses forbans se cachèrent dans les joncherets qui bordaient des étangs. Dans ce lieu marécageux, les captifs passèrent une journée misérable, dévorés par les moustiques. Les barbares restaient sur le qui-vive. À plusieurs reprises leur parvint le grondement lointain de longues colonnes de cavalerie. Des manants venus couper des roseaux faillirent également les découvrir, mais arrêtèrent leur récolte à moins de 20 toises de la bande embusquée. Quoique furieusement tenté d'appeler au secours, Vinmer se contint. Attirer l'attention des paysans n'aurait servi qu'à les frapper d'une mort cruelle. Ce fut au cours de ce bivouac fangeux que le frère Hummel, émergeant temporairement de son marasme, prit l'initiative d'un échange à voix basse. « La déesse me pardonne », soupira-t-il avec une contrition qui ne lui ressemblait guère. « Je suis désolé, frère Vinmer. » « Vous n'avez pas à prendre la faute sur vous », répondit son compagnon à mi-voix. « Vous n'êtes en rien responsable de nos déboires. » « Oh, je ne parlais pas de notre capture, encore que... Mais j'ai bel et bien un aveu à vous faire. je préfère soulager ma conscience tant que j'en ai encore la possibilité. » Malgré sa lassitude, le frère sergent ne put se défendre contre un mouvement de curiosité. Allongé à côté de lui sur un lit de roseau, l'ermite avait vraiment une allure pitoyable, mais Widmer y voyait surtout l'effet du grand âge et du harassement. « J'en appelle à votre indulgence, » reprit le vieillard, « car je vous ai trompé. »
« Je vous demande pardon. »
« Je vous ai sciemment trompé, en plus d'avoir été souvent d'une courtoisie discutable. Or, vous avez toujours été prévenant et serviable avec moi. Je tiens donc à vous présenter des excuses. Au vu de ce qui nous arrive, je préfère me mettre en paix avec moi-même. »
« Vous m'avez trompé. J'ai du mal à le croire. À quel sujet ?»
Le vieillard eut un geste las de la main. « À propos d'une affaire qui vous tenait à cœur. Ah, vous allez m'en vouloir, quoique j'ai mal agi pour vous ménager. C'est au sujet de cet enfant de Goborchin qui a disparu l'hiver dernier. »
« Vous voulez parler de Milouin ?»«
C'est possible. Je ne le connaissais pas, vous savez. J'ai prétendu que je ne l'avais pas vu au prieuré. Ce n'était pas tout à fait la vérité. J'ai joué sur les mots. J'ignorais vraiment si cet enfant en particulier s'était rendu à ce Nantes, mais j'en étais presque sûr, puisqu'en réalité, j'ai vu une dizaine d'enfants dans mon ermitage, en compagnie de leurs ravisseurs.
« Quoi ? » s'écria Widmer. « Vous avez vu les enfants et leurs ravisseurs ?» Il avait élevé la voix un peu trop fort. Tous les barbares se tournèrent vers eux. Cela suffit à alarmer l'ermite qui se renferma craintivement. Le frère sergent jugea également plus prudent de faire profil bas, mais ce que venait de révéler le vieillard le faisait intérieurement bouillir, et au bout d'un moment, il ne se tint plus d'impatience.
Qui étaient ces ravisseurs ? Reprit-il à mi-voix. Le frère Hummel fit mine de n'avoir rien entendu, alors Widmer le poussa du coude en répétant sa question. Tout cela n'a plus d'importance, là où nous en sommes, marmonna l'anachorète.
Cela en a pour moi !
Vous auriez été impuissant à les rattraper. C'étaient trois vagabonds du peuple ancien. Des êtres charmeurs, fourbes et inconséquents. Les auriez-vous poursuivis, vous seriez tombés dans une embûche des brigands qui infestent les hautes terres, à moins que les aventureux ne vous eussent laissé les rejoindre. Dans ce cas, un sort pire vous aurait été réservé. Ils vous auraient moqué, tué, ou poussé à rompre vos vœux. J'ai vraiment voulu vous préserver en vous dissimulant ce que je savais. Mais cela reste une tâche sur ma conscience. Je n'avais ni le droit de vous cacher la vérité, ni celui de me substituer à votre décision.
Mais les enfants, comment avez-vous pu abandonner ces pauvres petits ?
Pauvres, ils n'en avaient guère l'allure. Ils étaient vêtus comme des princes. Ils en apprenaient les manières, et je gage que vous-même, vous auriez eu du mal à reconnaître votre galopin. Cela dit, je vous donne raison, j'ai été d'une négligence coupable. Ces enfants courent un réel péril, spirituel et moral, et je n'ai pas osé prendre leur défense. Peut-être par crainte. Ou... hélas, peut-être par jalousie. Oh, priez pour moi, Widmer. Priez pour mon salut. Moi qui ai été ministre de la divine sagesse, je crains surtout d'avoir été le plus grand fou
qui fut. Et l'ermite, retombé dans une mélancolie profonde, ne répondit plus aux questions répétées de son compagnon. Celui-ci, ruminant ses bribes de confession, ne parvint pas à fermer l'œil, bien qu'il sût que les attendaient encore d'éprouvants lendemains. Vers la fin de la troisième marche nocturne, la bande longea un bois particulièrement ténébreux. Il y régnait un calme profond que ne troublaient point les cris de la chouette ou du renard. Et Widmer sentit pour la première fois quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude chez ses ravisseurs. Le frère sergent supposa qu'il se trouvait à l'orée d'un bosquet du desséché, mais ne parvint pas à deviner à quel finage il appartenait. La crainte manifestée par les brutes ne fut pas sans l'étonner. Ces païens méprisaient le resplendissant, qui donnait pourtant ardeur aux troupes du sacre, et se gaussaient des deux déesses. En revanche, une nécropole sous l'égide du desséché les mettait mal à l'aise. Le soldat consacré supposa que le désastre qui, jadis, avait transformé les landes grises en une terre gaste, avait marqué les esprits barbares presque autant que ceux des gens de Léomance. Peu avant l'aube, les maraudeurs franchirent un gué peu profond qui, à la grande surprise de Widmer, les amena aux portes d'un village. Les barbares se contentèrent de se faufiler derrière les clôtures des potagers sans traverser le bourg endormi. Mais les aboiements de plusieurs chiens signalèrent leur passage. La bande finit par s'arrêter derrière une simple haie pour prendre un peu de repos. Les captifs n'eurent pas le loisir de récupérer. Comme le soleil venait de se lever, l'homme au torque décida de repartir. Bien qu'ils fussent fatigués, ces hommes ne protestèrent pas. Le frère Hummel, en revanche, était à bout de force, et il fallut deux guerriers pour le hisser en selle. Widmer ne se sentait guère plus vaillant. Il espérait vaguement que ce coup de collier et les imprudences commises par les ouromans trahissaient leur nervosité, mais il n'aurait su dire quel péril il redoutait. Au vrai, le frère sergent se sentait désormais à peine capable de mettre un pied devant l'autre et trop harassé pour saisir une occasion de fuir. Il n'avait même plus assez de ressorts pour se réjouir du risque que prenaient ses ravisseurs en se déplaçant en plein jour. Il n'aspirait qu'à s'effondrer dans un fossé pour soulager ses pieds saignants et ses jambes percluses. Sortant des chemins creux et des lopins bordés de halliers, la bande gagna une plaine faiblement onduleuse, verdoyante de joncherets et de prairies. Avec un coup au cœur, Widmer aperçut pour la première fois, à une ou deux lieues au sud, le méandre d'un grand cours d'eau. Sur l'autre rive, les lisières d'une vaste forêt défendaient la Londe d'Halle, la première région contrôlée par les clans. Le frère sergent lutta contre un accès de désespoir. S'il se trouvait entraîné dans ce territoire sauvage, le resplendissant lui-même ne pourrait plus grand-chose pour l'aider. Cependant, les barbares n'obliquèrent point vers le fleuve, mais continuèrent à descendre vers l'aval. Un grand vent leur soufflait des haleines marines au visage, tout en poussant des rangées de nuages à leur rencontre. Des bancs de mouettes voltigeaient au-dessus des eaux d'ardoise de la Claye. La matinée était bien avancée, et Widmer clopinait péniblement, poussé avec brutalité pour allonger le pas, quand se dessina une immensité bleu-gris entre deux buttes herbeuses. La mer se déployait dans les lointains, venant borner les terres et ouvrir les horizons. Cette perspective démesurée ne retint guère l'attention du vieux soldat. Il était trop fourbu pour admirer le paysage. En outre, c'était un homme de l'intérieur des terres, qui avait combattu sur les piémonts de Louromagne et sur les marches des steppes de Féminie, aux confins des vastitudes continentales. L'océan, à ses yeux, représentait moins une échappée vers le grand large que le terme de son monde. Ce qui secoua son apathie épuisée, ce fut d'abord le ton des aboiements qu'échangeaient ses ravisseurs. À travers la véhémence continuelle de leurs grondements,
il perçut à nouveau de la peur. Cela le poussa à relever la tête pour chercher ce qui inquiétait les scélérats. Sur les chemins sableux qui traversaient les prairies, il découvrit des groupes épars de barbares. Certains étaient assez nombreux, la plupart ne comportaient que quelques individus. De façon très dispersée, ils convergeaient vers le sud, en trottant lourdement. Leur armement paraissait très disparate et souvent incomplet. Des traînards se faisaient dépasser, soutenant un bras inerte ou boitillant sur une jambe. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Vinmer reprit espoir. Ce désordre ressemblait fort à une déroute. Proche de la côte, il aperçut également un château modeste, à peine plus grand qu'une maison forte. Le fortin était éloigné d'une ou deux lieues, mais il y avait grande agitation à ses portes. Une petite foule y subissait des mouvements confus dans laquelle le frère sergent crut reconnaître les soubresauts d'un engagement. On se battait à une heure de marche. Tout n'était pas perdu. Mais ce fut au nord que le prisonnier découvrit la vision qui ranima les plus vifs espoirs dans sa carcasse courbattue. Presque hors de vue dans ses plaines littorales, un nuage de poussière soulevait son panache sur l'horizon. Il descendait le sillon clair d'une route au milieu des prairies. Une haie dense paraissait ombrager cette chaussée et s'étirait lentement vers le sud. Mais en guise de frondaison, c'était une forêt de pennons et de bannières qui se déroulait sur le chemin. Et le soleil accrochait parfois un éclat sur une barre d'acier ou un écu bariolé. Une grande armée marchait vers la vallée de la Claye, probablement l'ost du Cal. Les forces de Bromel regagnaient le terrain perdu. Malheureusement, Vinmer n'était pas seul à avoir repéré cette colonne. Les Ouromans avaient distingué la menace avant lui, et secouant la fatigue, accélérèrent le pas. Le frère sergent se sentit déchiré entre une brutale espérance et un accès d'angoisse. Il n'aurait pas le jarret de suivre longtemps ses ravisseurs à cette allure. Mais il avait aussi la certitude qu'ils ne se sépareraient pas facilement de lui. S'il l'abandonnait derrière eux, ce serait à l'état de cadavre. Il essaya de calquer sa course sur celle des barbares, mais au bout de deux portées d'arc, son cœur cognait comme un tambour et il ne parvenait plus à reprendre son souffle. Le moment de vérité était arrivé. Il n'était plus capable de suivre. Ses jambes le lâchaient. Il trébucha et s'effondra. À moins d'un miracle, les Ouromans allaient l'achever. Le frère sergent recommanda son âme à la divine tétrarchie et se prépara à comparaître devant le desséché. Il se passa alors quelque chose d'inattendu. Il fut frappé et injurié une fois de plus, mais ne reçut pas de coup de grâce. Au lieu de cela, Gruffud revint sur ses pas, arrêta son méchant cheval juste devant le frère sergent et, lui tendant la main, aboya. « Lève-toi ! Monte !» Vinmer le regarda par-dessous, interloqué. « Dépêche !» gronda l'homme au torque. « Ou je te fais casser les dents !» Brutalement saisi par Donchad et Ulfsen, le prisonnier fut soulevé et se retrouva à califourchon derrière le chef de bande. Effaré, il constata que l'épée et le coutelas de son bourreau étaient à portée de main. « Essaie pour voir !» gronda le barbare. « Ulfsen sera trop content de te trouer la couenne. » Et le petit groupe repartit. Les cavaliers au trot escortés par les piétons qui donnaient un furieux coup de jarret. « Pourquoi ?» demanda Vinmer, aussi étourdi par les coups qu'il venait d'essuyer, que par le fait de se retrouver en croupe. « Ferme ta gueule !» grogna l'homme au torque. « Pourquoi m'épargnez-vous ? » « C'est ça, prends-moi pour une buse. Tu sais très bien pourquoi. Un de vous deux vaut son poids en or et je veux être sûr de ramener le bon. » Ces mots auraient arraché un rire au frère sergent s'il n'avait été si exténué. De voir la vie à pareille méprise était une douloureuse ironie, surtout pour le membre d'un ordre qui ne payait point de rançon. Le resplendissant n'avait pas abandonné Vinmer, mais il usait quand même de voix très tortueuses. Et puis, alors qu'il tentait de maintenir son assiette sans se blesser contre le trousquin de la selle, le vétéran commença à entrevoir une troublante vérité. Dès le départ, les barbares avaient cherché le frère Hummel. C'était l'ermite qui valait une fortune à leurs yeux. Ils étaient bien renseignés, suffisamment pour avoir trouvé les ruines du prieuré. Il était donc probable qu'ils en savaient beaucoup sur l'anachorète. Deux conclusions en découlaient. Le frère Hummel dissimulait bien plus que ce qu'il laissait paraître, et la survie de Vinmer n'était qu'un sursis. Sitôt dissipés les doutes des Ouromans sur l'identité de leur prisonnier, le soldat consacré perdrait toute valeur à leurs yeux. Que faire dans l'état de faiblesse où se trouvait le captif? Saisir les armes de Gruffud pour chercher à fuir en le prenant en otage? La vigueur et l'agressivité des Forbans vouaient pareille tentative à l'échec. Le frère sergent n'était même pas sûr qu'elle lui prodiguerait une mort rapide. Il risqua un œil au-dessus de son épaule. Au loin, sur l'horizon, l'armée ducale progressait trop lentement pour réduire l'écart avec la petite bande. Les barbares soufflaient comme des bœufs, mais maintenaient leur course autour des deux chevaux. Devant eux, un des bras de la claie s'allongeait pour leur barrer la route. Hélas, un petit pont de pierre permettrait de franchir l'obstacle sans problème. Par-delà, au sud, l'estuaire du cours principal se trouvait défendu par les remparts d'une ville. Désormais, Vinmer avait retrouvé ses repères. Il comprenait qu'ils arrivaient à Vekinsberg, récemment conquise par les clans. Le pont formait un goulet d'étranglement où la bande de Gruffud coudoya et bouscula d'autres barbares. Ces nouveaux Ouromans avaient eux aussi le souffle court et la plupart étaient ensanglantés. Ils n'en échangèrent pas moins force insultes avec les ravisseurs. Les plaides des fuyards avaient des motifs distincts et leur dialecte sonnait différemment. Mais l'homme au torque ne leur était pas inconnu puisqu'ils l'apostrophèrent par son nom. Vinmer crut aussi reconnaître des mots qui signifiaient le chef ou le roi, sans être sûr de ce qu'il avait compris. En tout cas, ce n'était pas Gruffud qui se trouvait gratifié de ce titre. Le frère sergent eut plutôt le sentiment qu'on le prévenait de la présence d'un puissant personnage, mais il ne parvint pas à en démêler davantage. Ces bribes d'informations lui donnèrent soudain une idée qui le stupéfia. Il crut enfin deviner ce qui lui avait valu la vie sauve et jeta un coup d'œil effaré au frère Hummel. Le vieillard, à bout de force, glissait sur sa selle et Ulfsen l'avait rejoint en croupe pour l'empêcher de choir. Vinmer jugea son intuition complètement extravagante, mais il lui parut plus insensé encore qu'une brute aussi cruelle que Croc de Loup prit ainsi soin d'un pauvre hare. Pourquoi monter une expédition destinée à enlever l'ermite si loin en territoire ennemi? Pourquoi s'acharner à le soustraire aux troupes ducales? Les choses devenaient claires aux yeux du frère sergent. Hummel était traité en otage, et même en otage précieux. Voilà pourquoi Gruffud pensait qu'il valait son poids en or. Il allait servir de monnaie d'échange ou de moyens de pression dans la guerre entre Louromagne et Bromel. Pris de vertige, Vinmer se demanda qui se cachait sous la haie de l'ermite. S'il revêtait un tel prix aux yeux des barbares, sans doute était-il de haut lignage. D'ailleurs, le comportement du frère Hummel ne trahissait-il point l'homme de cour? Il était difficile de se dépouiller complètement de l'habit du siècle quand on était entré dans les ordres sur le tard. En dépit de sa pauvreté et de son sacerdoce, l'anachorète avait conservé des manières dédaigneuses, et qui, sinon un haut homme habitué à disposer du sort d'autrui, aurait pu se comporter comme il l'avait fait à propos du rapt des enfants. Quel sang coulait donc dans les veines de celui qui se faisait appeler Hummel en religion? Sur quelle maison l'envahisseur voulait-il faire peser son chantage? Qui, en vérité, aurait pu suspendre la progression menaçante de l'armée ducale, sinon un Brommel? Or, la Sète, à l'évidence, ployait trop sous le fait des années pour être l'un des fils ou des neveux de Ganelon de Brommel. La guerre du Hériban avait également emporté le frère aîné du duc 25 ans auparavant. De toute façon, le vieillard était d'une génération antérieure. Qui demeurait-il de la lignée ducale qui fut encore en vie à un âge aussi avancé? Personne. Personne, à moins que, et c'était cette idée que Windmer jugeait folle, voire délirante, mais qui éclairait d'un jour nouveau sa cuisante équipée, à moins que l'ermite eût pu être le père du duc en titre. N'était-il pas assez vieux pour revendiquer ce privilège? Voilà qui aurait expliqué ce mélange de manière ombrageuse et d'isolement farouche. Évidemment, cette hypothèse se heurtait à une difficulté de taille. Le vieux duc Griffon avait rendu l'âme 6 mois après son fils aîné, alors que le duché peinait encore à se remettre de la guerre du Hériban. Mais à la différence du prince Vertigier, le duc n'était point tombé les armes à la main. Il était mort de tristesse, disait-on, incapable de se remettre du combat fratricide de ses enfants. L'imagination de Windmer s'emballait. Et si cette disparition n'avait été que faux semblant? Et si le vieux duc Griffon, usé par les rébellions de sa noblesse, frappé par la mort de son fils, accablé par l'alliance ou romande qui s'était transformée en invasion, avait simplement souhaité déposer la couronne ducale et se retirer en religion. Pareille hypothèse éclairait bien des choses, comme cette monture prêtée par une grande dame, la retraite de l'ermite qui trahissait davantage le goût du secret que celui de la solitude. Sans parler, bien sûr, de cet absurde enlèvement qui n'avait aucun sens si Hummel n'était point un grand personnage. Le frère sergent était si abasourdi par ses conjectures qu'il en oubliait ses angoisses. Quelque épuisé et ensanglanté fût-il, il rougissait des manières un peu bonhomme qu'il avait naguère eues avec l'ermite. L'esprit rempli de confusion et de doute, il ne songeait même plus à fuir et fut surpris d'arriver si vite à l'ombre des remparts. À première vue, n'eussent été les barbares qui y cherchaient refuge, Vekinsberg ne ressemblait pas à une ville prise. L'enceinte ne portait aucune trace de siège, comme si la place avait été livrée ou envahie par surprise. Seule sortait de l'ordinaire la présence aux portes d'un groupe de carles lourdement armés, en lieu et place des sergents du guet. La petite bande de l'homme au torque n'eut pas à montrer patte blanche pour passer. De la même façon qu'il avait été reconnu par les fuyards, Gruffud fut bruyamment interpellé par la garde du châtelet d'entrée. Dans le corridor caverneux qui donnait accès à la ville, les voix barbares retentissaient avec une force sinistre. Le frère sergent remarqua que les plaides roulées sur les broignes et les brigandines des défenseurs avaient des motifs proches de ceux de ses ravisseurs. Vekinsberg était une agglomération plus modeste que des villes bromaloises comme Carwell et Longomore. Mais pour un villageois du piémont des hautes terres, les quartiers entassés à l'intérieur des murs se révélaient d'une densité étouffante. Quoique port de mer, la ville semblait tourner le dos à la côte, renfermée sur ses ruelles pour résister au vent accouru du large. Place frontière sans cesse menacée par les coups de main venus de l'autre rive de la Claye, Vekinsberg n'avait pu développer ses faubourgs, mais se serrait entre ses murailles, ce qui comprimait d'autant ses maisons, beaucoup plus hautes que larges, et ses artères, du fond desquelles on apercevait au mieux une crevasse de ciel. De façon étonnante, la ville ne paraissait pas avoir été saccagée. Elle n'était pas exempte de vandalisme ni de traces de pillage, mais les huis réparés à la hâte par des planches clouées évoquaient un fragile retour à la normale. aucun corps abandonné sur la chaussée, aucun gibet visible. Les ruelles connaissaient un semblant d'activité où se mêlaient des groupes turbulents de barbares et de rares passants qui rasaient les murs. Pour autant, il était loin d'y régner une atmosphère animée. Ateliers et échoppes demeuraient portes closes. Les braillements que poussaient quelques guerriers ou romans ne suffisaient pas à remplacer le vacarme familier des bavardages, des marchandages et des criers. En fait, les habitants qui osaient sortir appartenaient aux milieux les plus modestes, ramasseurs de crottins, porteurs d'eau et menus valetaille. Sans doute se risquaient-ils dehors par nécessité. On ne voyait ni bourgeois, ni clercs, ni maîtres, ni nobles gens. Ce qui serra le plus le cœur du frère sergent, cependant, fut un bref aperçu de la tour réale entre deux hauts pignons. Le brasier du resplendissant y était éteint. Quoiqu'ayant échappé au massacre et aux incendies qui avaient ravagé Kelsbruck 10 ans plus tôt, Weckensberg se recroquevillait sous la poigne de l'envahisseur. La peur suait des maisons barricadées et des rues à demi désertées, stupéfiées de résonner de l'accent des clans. Et puis, assez étrangement dans cette bourgade épargnée par le feu, une prégnante odeur de brûlé se mêlait au relent exhalé par le ruisseau. La bande de l'homme au torque finit par déboucher sur une placette coincée entre deux hautes demeures. Des arcades avaient servi naguère de marché, mais se trouvaient pour l'heure envahies par une horde de lascars au trogne terrible. Une vraie clameur salua l'arrivée de Gruffud. Pour la première fois, Winmer reconnut le titre de Tan qui était beuglé par quantité de guerriers. D'une bourrade, le chef barbare fit choir Winmer afin de parader seul en selle sous les acclamations. La chute du frère sergent fut en partie amortie par la fange qui faisait office de chaussée. Il demeura un instant interdit, plus abasourdi par ce qu'il découvrit que par le choc. Le regard relevé vers un carré de ciel enclos de toits pentus, il venait d'apercevoir une horreur macabre qui planait à deux longueurs de lance au-dessus de la place. Le cadavre d'un dessicatorien était suspendu dans les airs, à hauteur du deuxième étage, les bras largement ouverts, tel un vautour figé en vol. L'un de ses poignets était retenu par une corde accrochée aux échafaudages d'un beffroi en chantier. Son deuxième poignet était lié à un autre câble, tendu dans la direction opposée jusqu'au meneau de pierre d'une des fenêtres d'un hôtel particulier. Vu d'en dessous, on réalisait qu'il ne restait que des chairs mutilées sous les genoux du cadavre. Le menton appuyé de biais sur sa poitrine, le mort contemplait de ses prunelles vitreuses la foule des barbares assemblés sous ses moignons. Winmer n'eut pas le temps d'être transi par ce spectacle. Donnchad, en le relevant brusquement, détourna son regard. L'homme au torque, tout en continuant à caracoler sur son méchant ronsin, répondait en riant au rugissement joyeux et frappait de la paume les mains qui lui étaient tendues. Deux gaillards qui venaient d'achever d'uriner contre la façade de ce qui était probablement la maison des échevins jouèrent des coudes vers Gruffud, sitôt leur affaire terminée. Ils n'étaient pas armés, mais arboraient les tuniques de grosse laine, la coiffure mal taillée et les bijoux des clans. L'homme au torque sauta à terre et les étreignit avec élan. L'un des deux, le plus jeune, lui cria en riant quelques mots que Winmer comprit presque complètement. Quelque chose comme « tu arrives à temps pour la bagarre ». Gruffud protesta avec humeur et son interlocuteur lui frappa amicalement l'épaule. Puis les trois hommes se tournèrent vers les prisonniers. Le regard du jeune Ouroman croisa celui du frère sergent. Ce contact visuel ne dura qu'un instant et pourtant, Winmer en retira une impression singulière. Cette figure se démarquait des autres. Certes, le gaillard affichait tous les signes extérieurs de la barbarie, une nuque rasée, une longue frange mal peignée, tout un réseau de tatouages qui se perdaient sous la barbe, un torque au tampon à tête d'ours et les mains chargées de bagues raffinées probablement volées. S'il paraissait moins massif que la plupart de ses congénères, il possédait cette morphologie de chat maigre dans laquelle Winmer flairait l'endurance d'un combattant aguerri. Cependant, en dépit de tous les traits typiques de son engeance, le jeune barbare respirait une vitalité plus complexe que la simple brutalité. Sa physionomie portait les vestiges d'une certaine finesse, abâtardie par la ruse et la rustrerie. Sous ses mèches un peu grasses, il dardait un regard perçant. Ses yeux d'aigle marine donnèrent au frère sergent le sentiment désagréable de se retrouver mis à nu. Au soulagement de Winmer, le jeune Ouroman se désintéressa aussitôt de sa personne. Il jeta un coup d'œil au frère Hummel, toujours en selle, eut l'air un peu déçu, et le désigna du doigt.
« Fais descendre le vieux, » ordonna Gruffud au frère sergent, « et amenez-vous. »
Ignorant sa fatigue et ses propres douleurs, Winmer aida l'ermite à mettre pied à terre. Gruffud prenait déjà la direction de l'échevinage en échangeant des bourrades avec le jeune guerrier. Ils franchirent une porte dont le chambranle portait encore les armoiries sculptées de la ville. Le rez-de-chaussée de la bâtisse était occupé par une grande salle voûtée, noire de monde. Une hirde de Karl était en train de s'y équiper pour la guerre. Au passage de Gruffud et de son jeune compagnon, les guerriers rugirent, brandirent des haches et des clémores, frappèrent bancs et boucliers. Le vacarme roula énorme sous les arcs brisés. L'homme au torque éleva les bras en signe de victoire, ce qui fit redoubler le tumulte. Le frère sergent qui soutenait l'ermite sentit que le vieillard tremblait. Le vétéran lui-même avait le ventre noué. Il avait le sentiment d'avoir échoué en plein pandémonium. Fort heureusement, l'homme au torque et son guide ne s'attardèrent pas. Ils s'engouffrèrent dans un escalier à vis qui desservait les étages. Pendant un bref instant, les deux prisonniers furent un peu moins opprimés. Devant eux, les ouromans grimpaient les degrés 4 à 4, tandis que le frère Hummel les montait péniblement. Les hommes de Gruffud étant restés dehors, ne les brimaient plus. Malgré le bruit qui roulait encore dans la cage d'escalier, le tapage était moins assourdissant. Winmer en profita pour glisser quelques mots à son compagnon d'infortune.
« Avez-vous une volonté que je puisse encore exécuter ?» demanda-t-il.
« Priez pour moi. »
« De tout cœur. Mais je pensais à un service plus profane. Que pourrais-je faire pour atténuer ces rigueurs ? Ah, si j'avais deviné plus tôt votre condition, je ne vous aurais pas négligé dans ces ruines comme je l'ai fait. »
Malgré ses difficultés à marcher et son essoufflement, le frère Hummel fronça les sourcils.
« Ma condition ? »
releva-t-il.
« Que me chantez-vous là ?
N'ayez crainte, votre secret sera bien gardé. Même soumis au pire supplice, je ne parlerai pas. Sachez juste combien j'admire votre conversion, votre altesse. »
Ces paroles eurent un effet tout à fait insolite. Sur la figure ravinée de l'ermite, le masque d'angoisse et de souffrance se mua en grimace sardonique.
« Mon pauvre Winmer, ces brutes vous ont trop tapé sur la tête, » ricana-t-il. « Où avez-vous été pêché, pareille sottise ? Je ne suis même pas noble, mon ami. »
Et le vieillard riait encore, appuyé sur l'épaule du frère sergent, quand ils entrèrent dans une nouvelle pièce à la suite des ouromans. Il s'agissait probablement de la salle du conseil de ville où délibéraient encore quelques semaines auparavant les échevins et les maîtres de Jurande. De belles dimensions, elle était éclairée par une baie de fenêtres à meneaux. Des blasons aux armes des différents corps de métier ornaient les murs de part et d'autre d'une vaste cheminée à manteaux et pieds droits sculptés. Un plafond à poutres et closoirs peints achevait d'habiller cet espace, qui n'eût point déparé dans un château. Hélas, cet endroit élégant avait été transformé en repère de brigands. Nombre de petits carreaux des fenêtres à croisillons étaient cassés. Les bris de verre jonchaient le parquet, mêlés à des tessons de poterie et des reliefs de repas. D'une tapisserie de prix, il ne restait que quelques lambeaux. Elle avait été déchirée grossièrement pour habiller certains sièges. Une partie des boiseries qui couvraient le bas des murs avait été arrachée. Leurs panneaux, délicatement ouvragés, alimentaient la cheminée, transformée en âtre de cuisine où rôtissait un porc entier. Un véritable débarras encombrait le fond de la salle. Des coffres avaient été entassés au pied d'une grande table, tirée contre un mur, sur le plateau de laquelle était perché un fauteuil. Non loin, plusieurs tonneaux en perse, calés avec des pieds de meubles brisés, avaient répandu une partie de leur nectar, bu par les lattes du plancher. Dans ce décor louche, banquetait une faune effrayante. Assis sur les cathèdres échevinales, sur des coffres volés ou à même le sol, un ramassis barbare buvait, dévorait, grondait et lutinait des donzelles. Certaines de ces filles avaient l'allure de gueuses ramassées dans des tavernes ou des maisons de bain et se prêtaient complaisamment aux privautés des brutes. D'autres étaient des malheureuses, plus ou moins dévêtues, le visage noirci d'ecchymose, et n'avaient plus la force de se débattre contre les violences. Face à ce spectacle, le rire du frère Hummel mourut, et Winmer fut bouleversé par un accès de révolte impuissante.